Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, quel plaisir de me retrouver à nouveau à ce micro pour une deuxième demi-saison, ou une deuxième moitié de saison, devrais-je dire, de Société. Bonne année à vous tous. Meilleurs vœux, bien sûr, santé d'abord et le reste, tout ce qui vous plaira, bien évidemment. Vous faites de ces souhaits ce que vous voulez, en espérant que ce soit de bonnes choses, bien sûr. Merci également d'être à l'écoute. C'est toujours un honneur et un privilège de savoir que vous êtes là à l'écoute. Une émission aujourd'hui assez simple. Nous faisons un retour sur l'actualité politique et j'allais dire pandémique des dernières semaines. Politique d'abord dans un instant avec nos interlocuteurs habituels Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard. Puis dans une deuxième partie de l'émission, nous allons parler avec Nima Machouf, faire un retour sur un état des lieux de ce qu'on sait à ce moment-ci sur ce virus-là. On va se pencher sur le côté épidémiologique et virologique de la chose, si on veut, davantage que sur la politique, quoique, bien sûr, ça soulèvera peut-être des questions politiques dont on discutera un peu également. Mais allons tout de suite rejoindre les deux Fred. Frédéric Bérard, vous êtes là?
Oui, absolument. Bonne année.
Et vous-même, et vous de même. Et Frédéric Lapointe. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Oui, bonne année à vous deux. Bonjour.
Alors, le second Fred est fondateur de la Ligue d'Action Ligue d'Action Civique, j'ai dit physique. C'est peut-être le couvre-feu qui nous donne envie de bouger, allez savoir. Et Frédéric Bérard, vous êtes non moins physique, mais davantage avocat, c'est bien ça?
Je suis beaucoup moins physique que Frédéric. La Ligue d'Action Physique, c'est probablement la seule ligue et activité que Frédéric ne préside pas en congrès, j'ai l'impression, mais même encore, pas
Ah oui, bien sûr. C'est
pas encore.
La Ligue des José Lavigueur. Alors, bref. On va reprendre, messieurs, là où on a laissé, parce que l'actualité nous y amène. Je pense que nous parlions de racisme systémique la dernière fois qu'on s'est parlé, ou en tout cas, une des dernières fois qu'on s'est parlé l'année dernière. Cette semaine, dans ce dossier, nous avons appris, nous avons connu quelqu'un que nous ne connaissions pas pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, Bokra Manai. J'espère que je prononce correctement son nom. C'est la nouvelle commissaire au racisme. Racisme et à la discrimination systémique de la ville de Montréal. Systémique ici est écrit au pluriel, donc c'est le racisme systémique et la discrimination systémique. C'est une nouvelle qui était d'abord montréalaise, mais évidemment suite à la réaction du gouvernement Legault qui a parlé d'une erreur, hein, ou qui a dit cette nomination est discutable, c'est devenu une nouvelle pan-québécoise, si on veut, d'autant plus que déjà ce sujet-là, ce débat-là déborde largement des frontières de Montréal. Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement Legault s'est mis un doigt dans l'œil? Est-ce que c'était opportun de se prononcer sur la nomination d'une commissaire par la ville de Montréal? Alors, j'explique à nos auditeurs. M. Legault trouve que cette nomination est incongrue parce que Mme Manai a milité en défaveur de la loi 21 en parlant en disant, par exemple, que le Québec était devenu une référence mondiale en ce qui a trait au suprémacisme blanc, ce qui n'est pas très glorieux pour nous, mais il reste à voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais bon, elle disait ça dans une manifestation, je crois, là. Bref, on comprend que c'est une personne qui milite en faveur de ce concept de racisme systémique et qui, de toute évidence, voit dans la loi 21 un problème. Bref, est-ce que M. Legault a eu raison?
Non. Et correction, pour avoir écouté la bande, il n'est pas question de suprémacisme blanc, mais de suprémaciste et d'extrémiste. On comprend ce qu'on comprend, là. Et ce n'est pas très élégant, mais on peut comprendre que lorsqu'on anime des foules, ben, il arrive qu'on échappe un mot qu'on peut regretter, une coche mal taillée. Ça m'est sûrement arrivé moi-même devant des foules, et lorsqu'on a une charge publique, et je pense que le poste de commissaire en question est une charge publique, ben oui, ça peut être normal de devoir s'expliquer ou même de devoir revenir sur certains propos. Je demande pas à personne de s'excuser, mais ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, à la question, est-ce que François Legault se mêle de ses affaires lorsqu'il commente la gestion des ressources humaines de la ville de Montréal. Je pense que ce n'est pas à la hauteur de la fonction de premier ministre du Québec que de se préoccuper de qui est nommé commissaire de ceci, commissaire de cela à la ville de Montréal. Je pense que ça contribue au climat d'acrimonie et il y a déjà suffisamment d'observateurs et d'électeurs avisés à la ville de Montréal pour pouvoir commenter, se faire une idée, trancher lors des prochaines élections. Et d'ailleurs, parlant d'agitation, Balalarama Aulneuf a jeté tout un pavé dans la mare en faisant valoir, ma foi, de façon complètement frivole.
Je voudrais pas...
La nomination de Mme Bochra-Mareille était une démonstration du racisme anti-noir de l'administration actuelle. Alors, François Legault a fait une erreur, à mon avis, on ne doit pas faire ça quand on est premier ministre, mais de la part d'un certain Balalarama Aulneuf, je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est rigolo au possible dans le débat actuel.
Oui, d'ailleurs, parlant de rigolo, je pense que vous pervertissez un peu son... vous travestissez un peu son prénom, là. On va vérifier, mais ça ressemble à ça, effectivement. Donc, c'est cet homme qui, représentant d'une association, là, dit... il aurait fallu une personne noire, hein, si je comprends bien, à ce poste-là.
Exact, exact.
Et la nomination d'une personne non noire témoigne d'une tendance anti-noire à la ville de Montréal. Bon, c'est un autre sujet sur lequel on va revenir dans un instant, mais répondons à la première question avec Frédéric Bérard. Si François Legault s'est trompé, comme le dit Frédéric Lapointe, ou en tout cas s'il ne se mêle pas de ses affaires, il doit être assez intelligent pour le savoir. En même temps, quoique vous, avec vous, on ne sait jamais, peut-être que vous pensez que non, mais est-ce qu'il y a une idée derrière ça, non? On a tout de suite vu se dessiner les deux camps habituels. Il y a de la politique ici, là, non?
Il n'y a pas qu'il y a de la politique, il y a juste de la politique. Et clairement, Legault va rejouer la cassette du fait qu'il n'existe pas de racisme systémique au Québec, tout simplement, et de nommer une commissaire qui dit qu'il y en a pour un poste qui est prévu à cet effet-là. Ben, évidemment qu'elle allait dire que c'était une erreur. Ce qui revient toujours à la même affaire, ce qui est fascinant à écouter François Legault et les autres apôtres, ou est-ce l'inverse? C'est que nous vivons dans le seul endroit en Occident qui n'a pas de racisme systémique. Alors voilà, nos fiertés, notre raison de plus pour être très fiers d'être Québécois. Il y en a partout, sauf ici. Quand on voit un curriculum pour un job, que tu aies un nom maghrébin ou que tu t'appelles Jean-Guy Tremblay, tu vas être convoqué au même nombre d'entrevues. Si tu as un nom...
Non, mais attendez, Frédéric Bérard, refaisons pas le débat du racisme systémique, là, parce que là, on va y passer l'émission. On y reviendra si vous voulez. Vous hésitez absolument. Mais commençons par la politique, là, avec François Legault. Est-ce que c'est pas de la part de Valérie Plante aussi de la politique, c'est-à-dire que les élections s'en viennent, on a procédé à une nomination qui fait plaisir quand même aux tenants du concept de racisme systémique, et on est allé chercher quelqu'un de la maison, là, quand même, hein, qui coche toutes les cases, ou presque, enfin, selon M. Holness, où je vais abîmer son nom, moi aussi, là, mais c'est pas la bonne nomination, mais enfin, bref, il y a un entre-soi, là, de ce côté-là aussi, on a vraiment l'impression de deux camps politiques qui s'affrontent. Alors, donc, est-ce que c'était pas de bonne guerre, finalement?
Bien, évidemment, mais qui voulait qu'un homme, Denise Bombardier, un représentant de la Meuse?
Ben alors, vous avez posé une excellente question. Si c'est aussi politique que vous le dites, et je le pense moi-même, justement, il y a une notion de symbole. On a nommé un commissaire là. Il me semble qu'on aurait peut-être voulu quelqu'un qui apaise ou qui représente quelque chose de neutre. Et vous posez bien la question. Si on avait nommé Denise Bombardier, par exemple, est-ce que les tenants du racisme systémique auraient été très heureux? On imagine que non.
Bien, il y a Gilles Proulx aussi qui serait disponible peut-être.
Bien, votre comparse, absolument.
Ben oui, mon comparse Gilles qui adorait, mais non, par sa part. Je veux dire, cette personne-là est toute qualifiée pour ça. Elle a un doctorat, elle a fait du terrain, elle manie aussi bien l'académique que les relations interpersonnelles. C'est une amie, hein, par ailleurs, je pense que je l'ai dit dans une chronique. Elle est aussi à l'aise avec la majorité blanche qu'avec la communauté maghrébine, la communauté noire. Et puis là, juste pour vous arrêter, faire une petite parenthèse, et un et l'autre, que M. X, représentant d'une association absolument obscure, là, avec respect, nous dise que c'est la preuve que blabli blabla, la ville de Montréal en a compté. franchement, là, est-ce qu'on va à chaque fois chercher le petit la petite anecdote pour essayer de monter ça en épingle et en faire une théorie? Son propos, et je suis désolé, monsieur, je vous connais pas d'ailleurs, mais est absolument ridicule. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est tout. C'est le propos de monsieur X, d'une association relativement obscure ou obscure parfaitement. Et ça finit là. Pour le reste, Boshra Manai était absolument, elle est encore qualifiée pour un job qui vise à faire en sorte d'éliminer le plus possible ce qu'on appelle le racisme et la discrimination systémique. Bon, mais là, est-ce qu'on peut laisser la chance au coureur? C'est un profil qu'on avait absolument besoin, qu'il soit académique ou autre. Et puis là, merci, bonsoir, puis on la laisse aller. Puis par rapport à la loi 21, si je peux dire, Nick, très rapidement, quand quelqu'un dit que la loi 21 est discriminatoire, si vous grimpez dans les rideaux, je suis désolé, mais c'est parce qu'en droit, vous ne savez pas ce qu'est la discrimination. La discrimination, c'est quand on crée des catégories basées sur, par exemple, l'âge, le sexe, la religion, la langue. Est-ce qu'on crée ici des catégories? Vous allez dire, oui, mais elle s'applique à toutes les religions. Ben justement, si ça s'applique à toutes les religions, ça veut donc dire qu'elle ne s'applique pas aux athées, de un, et de deux, c'est pas vrai qu'elle s'applique à toutes les religions. Elle s'applique aux religions qui portent des signes religieux. Donc, par exemple...
Ben attention, c'est-à-dire aux fidèles de certaines religions qui font le choix de porter de tels signes parce que c'est pas toujours inscrit nécessairement dans le catéchisme.
Je comprends ça, Nick, mais le port d'un signe... Si la liberté de religion ne protège pas le port du signe religieux, ben il n'y a absolument aucune jurisprudence à l'ONU puis en Occident qui tient, ou à peu près. Là.
Bon, alors ça sera pour l'émission sur la loi 21. Je vous la promets, celle-là aussi, Frédéric Béra. Oui, parfait. Comptez là-dessus. Je suis certain que ça va arriver. Alors, on parlait bien de Balarama Holness. Donc, d'ailleurs, c'est un ancien joueur des Alouettes de Montréal. Alors, je pense que Frédéric Lapointe ajoutait une syllabe là, quelque part. Ça rappelait le nom d'un groupe connu, j'irai pas plus loin que ça. Non, on parle bien de Balarama Holness. C'est cet homme qui dénonce la nomination donc de cette commissaire pas assez, qui n'a pas la bonne couleur de peau selon lui. Frédéric Lapointe, allons sur la nomination elle-même. Est-ce que vous accédez à l'argument que je mettais de l'avant tout à l'heure, le fait que c'est une nomination un peu délicate parce qu'on aurait pu choisir quelqu'un d'un peu moins impliqué dans les cercles militants, disons?
Oh, c'est un choix politique, on peut en discuter. C'est pas une surprise de la part de cette administration. Je ne pense pas qu'on doive le déplorer. Je pense que ce qui est le plus symbolique dans ce qui se produit, je pense que l'expression, c'est la révolution mange ses enfants. C'est-à-dire que lorsque on met de l'avant dans le discours public que lorsqu'il y a une déconvenue, lorsqu'il y a une statistique qui ne fait pas notre affaire, lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît, c'est forcément du racisme, ben il y a manifestement des gens qui prennent ça au mot. Alors peut-être que M. Holness avait une vue sur le poste ou quelqu'un qu'il connaissait. En tout cas, il semble illustré que ce ne soit pas de la bonne couleur. Et même si la chose apparaît foncièrement ridicule, ben il invoque encore une fois l'argument du racisme anti-noir pour expliquer le fait que c'est Madame très compétente. Moi, je me range aux arguments de Frédéric Bérard pour expliquer le fait que c'est Madame qui est choisie. Alors, quand on discute dans la sphère publique du fait que les accusations de racisme sont un peu rapides et qu'elles entraînent intellectuellement nécessairement quelques conséquences, ben, je trouve qu'on a là une démonstration assez puissante. Et M. Holness n'est pas le seul à tenir un discours de ce genre. Ce discours...
Ben, Frédéric Lapointe, il est tellement...
Probablement que Mme Boshra-Manai était capable de témoigner elle-même. Et d'ailleurs, sa réaction à la déclaration de M. Holness était très intéressante.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Mm-hmm. Elle lui donnait raison.
Ben justement. Alors, quand vous dites « la révolution mange ses enfants », est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que c'était la bonne personne pour occuper le poste si c'est quelqu'un qui accède aux déclinaisons les plus radicales de cette théorie-là du racisme systémique ou dans ce cas-ci du racisme dès que la personne n'est pas de la couleur de peau qu'on aurait souhaité? Oui. Est-ce que ça ne va pas produire au bout de la ligne les résultats qu'on sait d'avance? C'est-à-dire qu'elle écrira un rapport qui va nous dire qu'il y a du racisme systémique, les uns seront fâchés, les autres diront c'est parfait, puis il n'y a rien qui aura changé, comme disait Luc Ferrandez pour les coiffeuses de la rue Saint-Michel.
Oui, mais je suis prêt à donner la chance au coureur, et il revient à chacun.
de faire les représentations qu'il convient. Je veux dire, moi-même, je peux poser des gestes publics pour expliquer que les bassins de recrutement sont ce qu'ils sont. Là, on répète pas ce qu'on a déjà dit à cette émission. Donc, laissons la chance aux coureurs, mais constatons néanmoins que de consacrer toute déconvenue, toute différence statistique ou tout écart entre les uns et les autres sur la planète comme étant le fruit d'un système québécois, ben ouais, parfois ça entraîne des attitudes un peu étranges de la part des acteurs de la scène politique.
Allons sur la question. Je vous promets, Frédéric Bérard, hein, la loi 21, on y revient régulièrement. Parlons d'autre chose, parce qu'on a vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes en temps de pandémie et nous vivons une chose inédite, c'est le couvre-feu. Ce n'est pas du tout inhabituel pour les pays européens, mais je pense que sur notre continent, nous sommes à peu près les premiers dans cette situation-là, même si, au fond, la terminologie, des fois, est plus forte que la réalité, parce que l'Ontario, par exemple, est dans une sorte de couvre-feu qui dure toute la journée, d'une certaine façon. Néanmoins, Frédéric Bérard, on a entendu, ça va en s'accroissant, hein, les critiques de la gestion de crise du gouvernement. Là. Dans le cas du couvre-feu, tant à gauche qu'à droite, ou chez les libertariens et chez les gens plus de gauche, là, très à gauche, les mêmes récriminations à l'effet que l'efficacité n'est pas scientifiquement démontrée d'une telle mesure et par conséquent, c'est abusif, c'est fatigant, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment ça se fait qu'on réussit à faire l'unanimité contre le couvre-feu à ce point-là?
Ben, c'est difficile de faire l'unanimité avec un couvre-feu. Hein? Et de moi, c'est drôle, mais j'avais vu un sondage où 70% des Québécois l'appuyaient.
Non, mais vous avez raison. J'ai dit l'unanimité. J'aurais dû dire chez certaines catégories de citoyens qui sont généralement très opposés les uns aux autres.
Ben logiquement, naturellement, moi, Nick, je devrais être du côté de ces gens-là. Je défends les libertés civiles de manière générale. J'essaie de les considérer, les valoriser. Donc, évidemment, ce que je vais vous dire là ne me plaît pas comme tel, mais je vous dois honnêteté.
Tout à fait.
Et je me dois honnêteté surtout dans un cas comme celui-là, quand vous êtes dans une pandémie depuis quoi, 9-10 mois, ça ne fonctionne pas, les cas de contamination explosent, les cas d'hospitalisation également, à un point où on approche un point de rupture, on sera obligé, selon toute vraisemblance, si ça continue, d'aller d'opérations de délestage. Et peut-être un petit scoop pour vous, certains hôpitaux, j'ai des amis médecins qui m'ont écrit pour me dire qu'il y a des procédures maintenant, des formulaires qui sont inscrits à savoir qui on délaisse, c'est-à-dire qui on ne pourra pas soigner. On devra respecter les chartes à ce niveau-là et blablabla, mais tout ça pour dire que les formulaires se promènent. Donc, bref, rendu là, est-ce qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles dans une situation exceptionnelle? Je crois que oui. Est-ce que c'est clair que le couvre-feu viole les libertés civiles? Je le crois aussi, ça me semble évident. Ça, les rouleaux compressent à l'os, ne serait-ce que le droit à la liberté, le droit à la vie privée, la liberté de circulation et tout ce que vous voulez. Maintenant, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas parce qu'une liberté ou un droit individuel existe qu'il est absolu. Il peut être relativisé par le tribunal. Ici, le couvre-feu viole les droits que je vous ai énoncés et d'autres aussi. Maintenant, le tribunal va prendre ça en considération en disant « OK, ça va. Maintenant, faites-moi la démonstration, gouvernement Legault, que votre couvre-feu est une atteinte qui se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. » Et là, le gouvernement devra faire la preuve des quatre éléments suivants. Je peux les faire rapidement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un objectif réel et urgent? Moi, à mon avis, c'est clair. C'est la lutte à la pandémie. Ça va, c'est facile. C'est le critère le plus facile à passer devant les tribunaux, de toute façon. Deuxième critère, lui, il est plus complexe. C'est est-ce qu'il y a, vous l'avez dit vous-même dans votre question, est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'objectif, donc la lutte à la pandémie, et le couvre-feu? Et ici, contrairement à ce qu'il fait à l'Assemblée nationale en refusant de dévoiler des avis scientifiques, là, le gouvernement Legault devra les déposer, ces avis-là, devra convaincre le tribunal que la science est de son bord, c'est-à-dire qu'elle dit que le couvre-feu constitue une lutte, un moyen de lutte contre la pandémie qui est efficace. Et la réponse à ça se trouve notamment en France, vous l'avez dit aussi un peu, la revue de l'ANSET, ce qui est une revue scientifique reconnue, a dit qu'il y avait, en fait, étudié la question tout récemment, dit que les couvre-feux français ont porté fruit dans la baisse du cas de contamination, ainsi de suite. Donc, le lien rationnel, à mon avis, ça se fait, mais le gouvernement Legault ne pourra pas faire comme il fait actuellement en disant, ben, on s'en fout, les avis scientifiques, ça vous regarde pas. Non, non, là, ça va regarder le tribunal.
Troisièmement, rapidement, l'atteinte minimale. Est-ce que c'est une atteinte minimale au droit? Ça aussi, ça peut accrocher un peu. Mais je vous dirais, vous l'avez dit également, qu'en Ontario, c'est encore pire. Ici, on vous dit couvre-feu à partir de 20 heures. Je ne sais pas ce que les gens faisaient réellement après 20 heures au mois de janvier, à moins 40, puis dans 12 pieds de neige.
Mais moi, dans le temps des fêtes, on présume qu'ils se rassemblaient et puis que ça a posé problème, en tout cas. C'est ça.
Oui, mais à partir du mois de janvier, je pense que c'est peut-être le mois le plus, je dirais, le moins attentatoire aux droits. Et le quatrième critère du test en question, c'est de savoir est-ce que tout ça est proportionnel. En d'autres termes, est-ce que le gouvernement essaie d'assassiner une mouche avec un bazooka, par exemple? Moi, je ne crois pas. Évidemment, tout dépendra de la preuve qui sera déposée devant le tribunal par le gouvernement Legault. Ça prendra de la preuve scientifique. Là, moi, je pense que ça ne suffit pas. Il ne pourra pas crier aux complotistes non plus. Il devra faire une preuve bien établie à ce niveau-là d'un point de vue scientifique. Et s'il est capable, mon appréciation, c'est qu'un tribunal laisserait aller la chose. Surtout que dans le cas qui nous occupe, c'est pas comme si les policiers pouvaient rentrer à votre domicile sans mandat ou des trucs du genre. C'est des interceptions arbitraires dans la rue, c'est déplaisant, ça ressemble à un état policier. Moi, ça me fâche, j'aime pas avoir l'état dans mes culottes, évidemment. Mais reste que pour une situation exceptionnelle comme celle-ci, peut-être que des mesures exceptionnelles s'imposent et je pense que le tribunal les considérera comme telles.
Bon, en tout cas, on a l'impression que la Cour vient de trancher. C'était très concluant. Frédéric Lapointe, est-ce qu'on a raison de se plaindre? J'arrête pas de vous demander si on a raison. Aujourd'hui, vous êtes l'homme, le juge de la raison de votre côté. Est-ce que les gens se sont... c'est une sorte de trop-plein? Est-ce que c'est l'individualisme qui entre en ligne de compte ici? Je ne veux plus faire davantage de compromis, ou est-ce qu'au contraire, on a raison de dire « c'est un coup d'épée dans l'eau, ce n'est pas la bonne décision
ben, ». Je vais contraster deux décisions. La première, c'est celle du gouvernement d'administrer les vaccins différemment de ce qui est prescrit par les entreprises. Mm-hmm. En clair, ils espacent les doses pour qu'on puisse vacciner plus rapidement plus de gens. Pour le fixer en termes de chiffres, ils vont protéger à 90 % deux personnes tout de suite plutôt que de protéger une seule personne à 100 %.
En espérant que ce soit 90 % évidemment, là, le débat
C'est une illustration, mais c'est ce qu'on peut penser. Et c'est une décision politique, à mon avis, rationnelle, mais l'autre aurait été rationnelle aussi. Donc, le gouvernement est capable de trancher dans des cas éthiques qui sont importants, mais dans le cas précis du couvre-feu, à mon avis, il y a une dimension politique très importante, et c'est la suivante. Le coffre à outils est vide. Ils étaient rendus à cette solution pour agir parce que le reste n'avait pas fonctionné et que le gouvernement ne peut pas baisser les bras, ne peut pas dire « nous avons tout tenté ». Il serait, j'imagine que ça provoquerait des problèmes plus importants que le fait d'établir un couvre-feu comme il l'a fait. Mais pour ma part, j'ai l'impression que ce genre de solution, pour prendre une anecdote peut-être un peu exotique, ça ressemble à ce qu'un gouvernement communiste en Chine a fait lorsqu'il vivait une famine. Hein, plutôt que de dire ben, « on peut rien faire, c'est la famine, critiquez-nous », ben ils ont dit quoi? Ils ont dit « c'est la faute des moineaux, faites la chasse aux moineaux, allez tuer tous les moineaux mangent nos récoltes, c'est pour ça qu'on est en famine ». Donc, parfois, on fixe des moyens, on fixe des objectifs qui n'ont pas tant de lien avec le problème qui est à régler, mais ça donne à tout le moins l'impression d'agir, l'impression d'être déterminé, puis ça maintient une certaine cohésion sociale. Je constate, comme tout le monde, que la majorité des gens suivent le couvre-feu, moi-même. On est tous très disciplinés. Et de cette manière-là, je sais pas, on gère la panique, on gère l'anxiété, puis on gère très certainement les relations publiques du gouvernement.
Est-ce que, Frédéric Bérard, je vais commencer ma question autrement. Les gens qui discutent de la pertinence du couvre-feu, un peu partout dans l'univers médiatique et sur les réseaux sociaux, partent souvent d'une prémisse qui est la suivante. On dit, écoutez, la vaste majorité des Québécois suivent les règles, tout le monde fait de son mieux, et ça n'a pas marché, donc il faut aller un peu plus loin, ou encore, et ça n'a pas marché, et puis le couvre-feu ne marchera pas plus. Bon, vous voyez un peu. Mais pourtant, moi, pour avoir visité plusieurs milieux de travail dans la dans le secteur dans le secteur manufacturier, dans les petites entreprises, les ateliers, les entrepôts, la construction, j'ai vu mille fois. Par exemple, une équipe de travail parmi laquelle, quand on porte son masque, on a un peu l'air d'une mauviette. Alors finalement, on le met un peu tout croche, furtivement, dessus du nez. Finalement, on ne le met plus du tout. Bref, je ne vois pas une réalité qui ressemble à ça. Moi, il me semble qu'on est relativement indiscipliné. Puis là, je ne veux pas faire la morale à tout le monde en disant ça, mais je ne vois pas cette... Je comprends bien sûr qu'on a tous beaucoup modifié nos habitudes de vie. De façon variable, on s'astreint à suivre les règles. Il y a quand même les gens qui vont dans le sud. Il y en a d'autres qui restent chez eux. Est-ce que cette fièvre, vous savez, cette furie, justement, à l'endroit des gens qui sont allés dans le sud, là, est-ce que ce n'est pas en même temps une sorte de projection, de déplacement? On a trouvé quelqu'un qui fait pire que nous, alors là, on le critique à tour de bras. Hein? Mais au fond, est-ce que c'est vraiment les gens qui sont allés à Punta Cana qui vont faire une grosse différence? Bref, est-ce qu'on suit les consignes tant que ça? Est-ce que de ce point de vue, c'était pas nécessaire d'aller un cran plus loin avec le couvre-feu? J'ai dit confinement tout à l'heure, je voulais dire le couvre-feu.
Ben, c'est une excellente question. Nick, en fait, moi, je suis malheureusement pas très en mesure de l'évaluer comme vous. Moi, j'habite dans les bois avec deux chiens, puis ma seule sortie, c'est au Provigo pour aller me chercher un sac de patates avec des oignons, essentiellement. Donc, c'est difficile pour moi de voir...
Vous n'avez pas croisé un ours avec un masque, autrement dit.
Pas encore, sait-on jamais. Pour le reste, ça pour dire que j'ai pas cette réalité terrain que vous venez d'énoncer. Une fois qu'on a dit ça, cela dit, même si vous aviez raison, et je n'en doute pas, et même si c'était généralisé, il y a quand même ce qu'on appelle l'espèce de mesure du possible, dans l'optique où on doit s'en remettre en quelque sorte à une certaine forme d'autodiscipline dont parlait Frédéric tout à l'heure. Et j'ai bien apprécié le propos de Frédéric, justement, qui était beaucoup plus politique que moi, une analyse plus politique, plus sociale, plus stratégique de la part du gouvernement. Je ne m'étais pas rendu là, évidemment, dans mon appréciation.
Non, mais vous auriez pu, on le sait bien. Vous êtes capable.
Pas dans l'optique de... Je me suis même pas intéressé à ce bout-là comme tel. C'est peut-être Frédéric qui a absolument raison. Moi, j'ai été un peu plate en parlant de l'aspect judiciaire de la chose.
Non, c'était nécessaire. Je pense qu'on a apprécié la démonstration. Puis c'est pour ça que vous êtes complémentaires. Alors, on avait l'aspect politique ensuite.
Tant mieux.
Pour ma part, je ne prétends pas avoir raison non plus. Hein. Je dis seulement que je suis pas complètement certain, moi, qu'on est si formidablement discipliné que ça. Ceci dit, sans porter de jugement envers les uns et les autres.
Mais c'est évident. Et la réalité, c'est, à mon sens, en matière de pandémie, c'est qu'il suffit d'un pourcentage plutôt infime de la population qui décide de faire à sa tête pour continuer la contamination, pour empêcher les efforts d'autrui, pour contrecarrer les efforts d'autrui, qui est la majorité ici. Et c'est ça qui est dommage. Et là, si vous êtes le gouvernement, ben, vous pouvez pas être dans chacune des shops, dans chacune des entreprises, dans chacun ci, dans chacun ça.
Ben, dans les parties de Noël et dans, dans les maisons, les chalets, bon.
Ben, voyez, mais ça impose, ça implique, en fait, des considérations beaucoup plus importantes d'un point de vue droits et libertés. De débarquer dans un domicile XY sans mandat judiciaire, c'est de la job. Alors qu'ici, le couvre-feu...
Êtes-vous au karaoké? Ça venait pas de vous, ça?
Hein, non.
On a entendu quelqu'un qui chante.
C'est chez moi.
Ah bon, pardon.
j'ai mes deux adolescents, alors parfois, ça l'a eu.
Allez-y, Frédéric Guérin, pardon.
Oui, ben en fait, je sais plus trop où j'étais, c'est pas si important que ça, mais tout ça pour dire que si vous êtes un tribunal...
Allez dans les maisons, dans les entreprises, on n'est pas en dictature, finalement. Hein? Bon,
moi, ce qui est fascinant, j'ai remarqué, et ça, il y a une relation de cause à effet parfaite, tous ceux et celles qui nous disent qu'on vit en dictature maintenant au Québec ont appuyé essentiellement, on continue d'appuyer Donald Trump qui a lancé... une offensive contre le Capitole.
Oui.
Pour moi, c'est réglé.
Vous me permettez de faire le lien, parce que le temps nous bouscule un peu. Il faut qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, notre voisin du Sud. Frédéric Lapointe, on parle beaucoup de ces groupes d'extrême droite, dit-on, qui suivent Donald Trump ou qui sont ses plus fidèles alliés, qui ont apparemment déboulé sur le Capitole et mené aux tristes, franchement, là, tragiques événements qu'on a vu. Est-ce que c'est Il me semble que c'est un peu restreindre la portée de l'affaire. Est-ce que c'est vraiment seulement des gens d'extrême droite ou est-ce qu'on n'a pas affaire à un nouveau phénomène là, complotiste pur, en quelque sorte, qui dépasse les cercles d'extrême droite habituels aux États-Unis qu'on connaît, qu'on a vu agir depuis longtemps? Là, il y a QAnon et le reste, ces gens qui croient à toutes sortes de théories abracadabrantes. Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite tout le temps, ça?
Non, non. Je pense qu'il y a deux choses très banales dans ce qui s'est passé, paradoxalement. Banal et extraordinaire.
Oui, expliquez-vous.
Dans ce qui s'est passé d'extraordinaire aux États-Unis. La première chose, c'est qu'une foule en colère, lorsqu'elle est montée, lorsqu'elle est extraordinaire, c'est que c'est par le président des États-Unis, ben oui, est capable de poser des gestes qui débordent de toute norme. Hein, défoncer un Parlement, ça s'est déjà vu. Ça s'est vu au Québec. D'ailleurs, une foule en colère à Montréal a déjà brûlé le Parlement. Ça se voit dans des débordements.
Oui, bon, mais c'était en 1800, je me souviens plus. Mais oui.
L'École bleue de Montréal ont déjà occupé le Parlement de Montréal, si on veut, la ville de Montréal, le Conseil. Donc, que des foules se livrent à ce genre d'activité, au fond, c'est un peu banal.
Mais moi, je vous dirais que je suis allé au Capitole, je suis rentré dans exactement là où on a vu les scènes les plus loufoques et tragiques en même temps, puis il fallait passer 8 détecteurs de métal, c'était extrêmement compliqué.
Ce qui est malheureusement aussi banal aux États-Unis, c'est que lorsqu'il y a une manifestation Black Lives Matter, ben, il y a, je sais pas moi, 5000 soldats qui défendent le Capitole, et c'est vrai. Et là, manifestement, les services de sécurité américains n'ont pas eu peur de 3-4 white trash qui débarquent à Washington, alors qu'ils auraient dû en avoir peur, comme de n'importe quelle foule potentiellement en colère. Donc là, vous voulez du préjugé? Ben là, il y en avait un. Les gens se sont dit, ben non, ce sont des white trash, ils vont pas nous poser problème. Alors qu'objectivement, la probabilité que des terroristes, au sens de fous furieux voulant utiliser la violence pour atteindre ses buts, est tout aussi grande dans une foule de blancs colère que dans une foule de n'importe quelle couleur. Mais vous êtes aux États-Unis et donc non, ils n'étaient pas habités de cela. Ils vont l'être dorénavant, tant mieux, ça peut les guérir de leurs préjugés et du fait qu'ils sont pas capables de considérer que du monde, c'est du monde, hein, peu importe leur couleur, ben, ça va peut-être les guérir.
Question.
Ça va peut-être guérir les républicains aussi du trumpisme. Donc, à quelque chose, malheur est bon.
Quelques questions délicates en terminant, parce qu'elle va nous prendre un certain temps tout de même, et il nous en reste peu. Alors, Twitter, Facebook, YouTube même, soudainement comme ça, après ces événements, débranche le président. Hein? Le bloque ses comptes, suspende, il reste. Frédéric Bérard, est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Est-ce qu'il n'y a pas aussi en même temps une sorte de maladresse dans ça? Là? Parce que ceux qui disent que M. Trump et le trumpisme de façon plus large est une réponse populiste ou l'espèce de bien-pensance, les Américains appellent ça libéral, qui domine l'univers médiatique et des réseaux sociaux. Est-ce qu'il fallait vraiment aller à cette extrémité?
Dans un premier temps, je trouve Twitter absolument hypocrite de débrancher Trump alors que son règne ou son mandat, tout le moins, est terminé et que tout le monde le met, ou en tout cas plusieurs le mettent sur la
voie. Justement, ça a l'air fou, non?
Mais à vrai dire, je trouve ça une hypocrisie sans nom. Et est-ce que c'est de la censure, Nick? Oui. Est-ce que c'est une atteinte marquée par définition de la liberté d'expression? Oui. C'est là la question, est-ce qu'elle est nécessaire, cela dit? Moi, je dirais que les démocraties ont le devoir de se protéger elles-mêmes. On l'a ici dans le Code criminel où il est interdit, article 19, de faire de la propagande haineuse accompagnée de violence. En France, il est interdit de remettre en question l'existence de l'Holocauste sous peine de sanctions pénales. Mm-hmm. Est-ce que ici, on est un peu dans le même cadre? Évidemment, c'est un cadre privé, non pas un cadre public, mais c'est pas grave.
Ben justement, aux États-Unis d'Amérique, la liberté d'expression, alors là, c'est très, 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 très large et sacré. Hein?
Absolument, absolument. Mais là, ici, les deux exemples que j'ai nommés, moi, c'était l'État canadien et l'État français. Mm-hmm. Là, ici, on parle d'une entreprise privée qui s'appelle Twitter. Donc, évidemment, ce ne sont pas les mêmes considérations qui s'appliquent d'un point de vue légal à proprement parler, mais est-ce qu'on doit protéger la démocratie d'elle-même? Je suis désolé, mais ceux qui défendent Trump ici Et j'ai un malaise en disant ce que je vais dire là, parce que moi-même, j'essaie de défendre la liberté d'expression, mais Trump est une menace marquée à la démocratie, est une menace à la paix sociale et à la paix tout court. Et donc, et je pense que les preuves, si vous n'en avez pas suffisamment, vous n'en aurez jamais suffisamment. Alors, à ce moment-là, malheureusement, et je suis désolé de le dire, peut-être que c'était la bonne décision de Twitter. Et la deuxième question névralgique qui se pose, et qui est la plus compliquée en droit, c'est que si j'ai raison avec la prémisse initiale, c'est-à-dire que c'était la bonne décision, maintenant, qui jouera au censeur? Et la ligne, on la trace où? Et c'est ça, moi, qui m'embête drôlement avec la liberté d'expression. Je pense que je change d'idée trois fois par semaine là-dessus. Alors, si on s'en parle, j'aurais probablement changé d'idée à ce moment-là aussi. Mais ce sont des questions excessivement complexes, délicates. Et pour entendre les deux côtés depuis très longtemps, je m'intéresse à ça peut-être une dizaine d'années, je ne suis toujours pas convaincu d'un cas comme de l'autre. Je ne suis pas certain qu'il y a de solution gagnante à 100% de toute manière.
Frédéric Lapointe, est-ce que les grands du numérique auraient dû suspendre comme ils l'ont fait Donald Trump, ou est-ce que c'était une erreur?
Je pense que ça joue un rôle préventif qui, paradoxalement, un peu comme des régimes autoritaires le font lorsqu'il y a des troubles dans la société, et ils ferment Internet. Hein? Bon. Un système a, j'imagine, à faire ce qu'il a à faire pour se protéger. Cela étant, mon problème avec ça, c'est que ça peut avoir pour effet de radicaliser un certain nombre d'individus.
Encore davantage, oui, c'est ça. Est-ce que le problème n'est pas celui de la à partir du quand des entreprises privées se substituent à une justice qui ne va pas jusque-là, de toute façon, est-ce que c'est peut-être parce que la justice ou la loi ou le droit ne sont pas adaptés à la réalité? C'est-à-dire qu'on pourrait aller sur Twitter dire « je pense que j'ai été battu par une élection frauduleuse » ou dire « c'est absolument certain, c'est prouvé, et les Martiens, les Illuminati sont dans le coup, c'est pas la même chose. »
Oui, mais je pense qu'il faut, en droit, il y a des distinctions entre ceci est une entreprise privée, elle appartient à Mark Zuckerberg ou Twitter à quelqu'un d'autre, et le gouvernement de l'autre côté. Mais je pense que chaque acteur, chaque individu doit être responsable de l'état de la société. Et à cet égard, je pense que Facebook peut pas juste se dire moi, je suis une entreprise privée et au nom de mon profit, je vais laisser la société brûler à travers les populismes, la propagation de la violence et tout ça, parce que je suis un privé, je peux me le permettre. Non, la société tient parce que l'ensemble des acteurs gouvernementaux et des acteurs privés, font ce qu'il faut pour qu'elle tienne. Donc, il faudrait pas qu'on exagère là le facteur statut dans l'intervention de l'acteur. Je pense que Twitter, je pense que Facebook ont quand même eu la frousse de voir ce qui se passait et ils ont posé un geste de bonne foi en se disant qu'ils ne permettraient pas à leur entreprise ou à leur modèle d'affaires d'être le germe d'une guerre civile, parce que c'est...
Alors, terminons sur ce propos candide, Frédéric Lapointe. Frédéric Bérard, merci à vous. Retournez à vos oignons et vos patates et on se parle la semaine prochaine, j'espère bien. Merci, messieurs. Dans un instant, chers auditeurs, Nima Machouf est avec nous. Nous allons discuter, faire le point un peu sur les connaissances à propos du coronavirus. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors oui, Nima Machouf est chercheuse, épidémiologiste. Elle a fait un peu de politique aussi, il faut bien le dire. Elle est détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Elle est spécialisée en santé internationale et en maladies infectieuses. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Bonjour, Nima Machouf.
Bonjour, comment allez-vous? C'est très bien résumé.
C'est bien parfait, super. Merci, j'enregistre pour la prochaine fois. Merci d'être avec nous ce midi. On a pensé avec vous faire un retour, une espèce de survol sur l'état de ce qu'on, sur ce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait peut-être pas au mois de mars à propos du coronavirus et de la COVID-19. Mais j'ai envie de commencer par le lexique. Un instant, là, moi, je ne maîtrise pas toute la terminologie virologique, épidémiologique et le reste, et j'ai besoin de vos lumières. Quand on parle du fait de devenir porteur d'un virus, par exemple, du coronavirus en question, sans en avoir les symptômes. Est-ce qu'on peut dire qu'on a contracté, qu'on a attrapé, qu'on a été infecté? Quels sont les termes exacts?
Ça veut dire qu'on l'a contracté et qu'on est infecté.
Alors, on est infecté.
Oui, on est infecté. Mais chaque personne qui est infectée va pas nécessairement développer des symptômes, tout simplement parce que son système immunitaire est assez fort pour contrer, par exemple, le virus, ou parce que la charge virale, ça veut dire la quantité de virus qui ont infecté la personne n'est pas assez élevée, ou pour une raison quelconque, le virus n'a pas réussi à se multiplier fortement dans l'organisme de l'individu. Mm-hmm. Donc, l'individu est infecté, mais n'a pas beaucoup de virus et ne développe pas de symptômes ou ne développe pas des symptômes.
Voilà, donc, alors, à partir du moment où les symptômes de la maladie apparaissent, on peut dire qu'il développe la maladie en question, si je comprends bien.
Oui. Voilà. En fait, on peut utiliser cette terminologie, malade ou pas malade. Malade, ça veut dire quand la personne a des symptômes. Donc, on peut être infecté par le coronavirus, mais ne pas être malade de la COVID. Donc, mm-hmm. ne pas avoir de symptômes de la maladie.
Bref, le transmettre à quelqu'un, c'est infecter une autre personne purement et simplement. D'accord.
Pour pouvoir transmettre, il faut qu'on ait le virus.
Exactement.
Donc, dès qu'on est infecté, on a le potentiel de le transmettre.
Bon, parfait. Il y a sûrement d'autres mots comme ça que je vous demanderai de définir, ou enfin peut-être au fil de notre discussion, ça ne me vient pas à l'esprit pour l'instant, mais justement, partons de ce dont nous parlions à l'instant, le fait d'être porteur du virus, d'être infecté, parfois sans le savoir, parce qu'on n'a pas de symptômes, et d'infecter d'autres personnes par le fait même. Est-ce que ce qu'on nous disait au mois de mars et au mois d'avril, on en sait davantage là-dessus aujourd'hui, parce que c'est une portion toute cette affaire-là qui fait peur, en fait. Hein? Plusieurs d'entre nous cherchons à nous protéger pour ne pas contaminer d'autres personnes sans le savoir, finalement. Est-ce que, d'une part, c'est particulier à ce virus-là, et d'autre part, est-ce que les connaissances ont évolué là-dessus depuis quelques mois?
Vous avez bien raison que c'est la partie qui fait peur, parce que autant au mois de mars l'année passée, on avait compris qu'il y avait des personnes qui pouvaient être infectées, donc avoir le virus dans leur corps, sans avoir de symptômes, donc sans en être malade, mais tout en pouvant le transmettre. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Non, aujourd'hui encore, on voit, on note que les personnes peuvent transmettre la maladie sans le savoir.
Ça ne s'est pas démenti, ça.
Non, ça ne s'est pas démenti et ça continue. Et c'est cette partie-là qui fait peur exactement parce qu'on ne sait pas. Parce que si on sait qu'on est malade, c'est certain qu'on va aller s'isoler à la maison, on ne va pas sortir de la chambre, on ne va même pas se mêler avec les autres membres de notre ménage. Mais quand on ne le sait pas, on peut des fois pas assez faire la prévention, donc pas utiliser tous les moyens qu'on a en notre possession, des fois tricher un peu sur le masque, tricher un peu sur la distance et tout ça. Et dans ce temps-là, on peut transmettre l'infection. Cela n'est pas particulier au coronavirus.
Ben, c'est ce que j'allais vous demander. D'accord.
Ouais.
Est-ce que c'est plus vrai pour ce virus-là que pour d'autres, cependant?
C'est vrai pour ce virus-là et c'est vrai pour d'autres virus aussi. Par exemple, le virus du VIH. on peut être infecté par le VIH sans le savoir pendant plusieurs années même, deux, trois, quatre, cinq ans, parce que le virus n'a pas encore assez affaibli le corps pour envoyer des signaux à la personne, t'es malade, il faut que t'ailles consulter. Alors, et ça, c'est dans le cas des virus qui sont intelligents, qui sont très intelligents au point de vue de la survie de l'espèce. Un virus qui, dès qu'il attaque une personne, ne se manifeste pas rapidement, c'est un virus qui se donne la chance de pouvoir se multiplier et se transmettre.
C'est un virus intelligent, oui, c'est ça, qui s'assure de pouvoir durer.
Oui, pour la durée de son espèce, il est très intelligent. Le virus de l'Ebola, il n'a pas cette caractéristique-là. Dès qu'il infecte la personne est malade, et tout de suite, avant qu'il ait la capacité de se transmettre à plusieurs personnes, on peut déjà l'intercepter et traiter la personne traiter ou isoler la personne qui est infectée. Donc, coronavirus, pour cela, il est très intelligent.
Je vais préciser ma question. Vous avez bien répondu. Je vais aller un cran plus loin. Est-ce que il y a davantage, dans le cas de la COVID-19, de porteurs silencieux qui peuvent transmettre que dans le cas d'autres virus, je sais pas, les grippes habituelles, par exemple, saisonnières, ou je ne sais pas, le SRAS autrefois?
Je ne pourrais pas vous répondre à cette question parce que je ne sais pas, par exemple, dans le cas de la grippe, quelle est la proportion de personnes qui n'ont pas de symptômes.
D'accord.
Mais dans le cas de la COVID, il y en a. Et surtout, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne n'a pas de symptômes aujourd'hui, va en développer demain, mais aujourd'hui, si elle est en contact avec vous, va déjà vous transmettre son virus.
En effet, oui.
Donc, on transmet pendant qu'on n'est pas malade ou qu'on n'a pas encore de symptômes.
Ça, c'était déjà dans les connaissances populaires là, pour toutes sortes de virus qui couraient à chaque année. On nous disait, t'es peut-être dans ta période d'incubation. Hein? C'est ça, peut-être tu vas le transmettre à d'autres. D'accord. Est-ce que... Alors, cette question des porteurs silencieux, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, est-ce qu'on sait à ce moment-ci quelle est la proportion des infections qui vient des porteurs silencieux? Est-ce que c'est un problème central, majeur, ou est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que la plupart des gens qui contractent la COVID aujourd'hui ont été en contact avec des gens qui avaient des symptômes, ou c'est pas le cas? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
On ne sait pas encore exactement quelle est la proportion de patients qui ont été infectés par des personnes asymptomatiques. On voit de tout. Par exemple, dans les centres hospitaliers, quand il y a du personnel de santé qui est infecté, ils sont infectés par des personnes qui ont des symptômes et par des personnes qui sont même gravement malades, parce qu'ils sont gravement malades pour être hospitalisés. Tandis que l'autre proportion de personnes qui s'infectent, par exemple, quand on voit des éclosions dans les lieux de travail ou dans les écoles, ces éclosions se font, ces transmissions se font par des personnes qui sont asymptomatiques totalement, parce que s'ils avaient des symptômes, ils ne se seraient pas rendus à l'école ou au lieu de travail.
Alors, on peut dire qu'il y en a beaucoup, au minimum.
Une bonne partie.
Oui,
d'accord. Parce que la moitié des gens qui sont infectés n'ont pas de symptômes. Alors, ils sont propices
bon?
À la transmission pareille.
On sait ça à ce moment-ci.
Autant que ça, oui.
Ah oui. Alors, pourrions l'avoir, vous et moi, en ce moment, et on ne le sait pas, quoique vous êtes probablement peut-être testé récemment, je ne sais pas, dépendant d'où vous travaillez.
Non, tant qu'on ne se fait pas tester, on est tous en télétravail. Hein?
Oui.
Tant qu'on ne se fait pas tester, on ne sait pas si on est infecté ou pas.
D'accord, en effet. Allons sur la question des aérosols. Il m'a semblé que cette question plane toujours, est toujours en filigrane, entre deux eaux. On en parle un peu plus, un peu moins. J'ai été un peu étonné de la façon dont les autorités, le gouvernement, M. Legault, M. Arruda aussi, en ont relativement peu parlé depuis quelques mois, et on entend régulièrement des voix s'élever. Vous avez vous-même fait partie d'une démarche à un moment donné là, de gens qui demandaient est-ce que dans les écoles, si je ne m'abuse, hein, vous me corrigerez si je me trompe, on prenne des mesures en fonction de cette possible contamination par aérosol, donc par les micro-gouttelettes ou particules qui restent presque indéfiniment en suspension dans l'air. Où en est l'état des connaissances là-dessus?
Alors, vous mettez le doigt sur un très, très bon point parce que au point, sur le plan de la science et des connaissances scientifiques, c'est justement l'élément nouveau dans la lutte à la COVID. En fait, pas parce que les aérosols, la transmission par aérosol est nouvelle, mais il y a eu beaucoup de doutes sur l'importance des aérosols dans la transmission de la COVID. Cet été, si vous vous souvenez, il y a des chercheurs des centaines de chercheurs qui ont envoyé une lettre à l'OMS pour leur presser de reconnaître la question de la transmission par aérosol, et l'OMS l'a reconnu. Nos gouvernements ont été très, très frileux par rapport à la reconnaissance de la transmission par aérosol. Le gouvernement du Canada maintenant l'a reconnu et a même émis des recommandations et des lignes directrices pour quoi faire, pour comment s'occuper bien de la ventilation des espaces intérieurs pendant la pandémie.
Est-ce que ça se résume en quelques mots, ça? Parce qu'il me semble qu'on a quand même très peu entendu parler de ces recommandations-là.
Justement, on n'en entend pas parler parce que le gouvernement québécois ne veut pas le reconnaître. Le reconnaître du bout des lèvres, à peine, mais ne prend aucune mesure pour contrer la transmission par aérosol.
Mais pour quelle raison, selon vous, si c'est bêtement, là, comme plusieurs le disent, pour des questions de coûts, d'investissement qui seraient requis, par exemple, dans les écoles, évidemment?
Oui, c'est des questions de coûts et peut-être un peu d'orgueil. De la même manière qu'ils ont agi contre le masque au début de la pandémie, c'est avec cette même ardeur qu'ils résistent à reconnaître, qui se refusent à reconnaître la transmission par aérosol. Je veux juste corriger un petit élément que vous avez mentionné.
Mais bien sûr.
Les aérosols ne restent pas indéfiniment en flottement dans l'air. À un moment donné, ils vont se déposer.
Mm-hmm.
Mais ils peuvent rester pendant une certaine période, tout dépendamment de la grosseur de la gouttelette. Plus elle est grosse, plus elle a des chances d'agir comme une balle de tennis, si vous voulez, donc avoir une trajectoire balistique, elle sort de notre bouche, elle court, puis elle descend et elle se dépose sur le sol. Mais plus la particule est petite, plus elle va flotter dans l'air, un peu comme la fumée de cigarette. Ou si vous vous tenez à côté de quelqu'un, tiens, ça c'est un bon exemple.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui a mangé de l'ail cru la veille ou à midi, qui a mangé de l'ail cru, son haleine va sentir l'ail. Ça veut dire qu'il y a dans les particules qui sortent de sa bouche, il y a l'odeur de l'ail. Si vous vous tenez à un mètre de la personne, vous allez le sentir. Si vous vous tenez à 2 mètres, vous allez le sentir moins. Si vous vous tenez à 10 mètres, vous allez le sentir beaucoup, beaucoup moins. Parce que ces particules-là se diluent dans l'air ambiant. Mais si, au lieu de l'odeur de l'ail, vous mettez des virus dans la laine, vous comprenez qu'à 1 mètre, il peut y avoir des particules qui sortent de la bouche de la personne, mais aussi des toutes petites gouttelettes, qui plus elles sont petites, plus elles deviennent des aérosols qui flottent dans l'air.
Mais elles ont, c'est ça. Excellente.
De la personne, moins oui. Il y en a. Moins il y en a de manière concentrée. Puis à un moment donné, ils vont s'asseoir à terre. Sauf que tout dépendamment de la ventilation, du mouvement d'air dans la chambre, ils peuvent se balader de gauche à gauche à droite. Et pourquoi on a tardé à la reconnaître? C'est une question purement de définition. Les scientifiques ne s'entendaient pas sur c'est quoi un aérosol et c'est quoi une gouttelette. Et ça tient juste au diamètre.
Alors, des questions de grosseur. À partir de quel moment vous êtes classifié, oui. Gouttelette?
C'est
ou... Votre précision était très, très claire et fort utile. En fait, moi, je voulais faire une image pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un postillon qui est tombé à terre une demi-seconde plus tard. Mais c'est ça. Donc, ça reste un certain temps en suspension dans l'air et ça tend à tomber et à se diluer, comme vous dites. Le principe de la dilution est très, très éclairant ici. D'ailleurs, une bonne haleine d'ail, Nima Machouf, ça peut... Quelqu'un qui est resté longtemps dans une pièce, vous rentrez là, même une grande pièce, ça va sentir l'ail. Hein? Si... Alors, oui. on voit que la question oui. du facteur temps intervient aussi.
Exact. C'est pour ça que quand on a réfléchi à l'ouverture des écoles, on s'est dit, les écoles, dans l'état où elles sont, et avec les directives du gouvernement, où le gouvernement disait... les élèves au secondaire portent le masque, et même au début, ils ne portaient pas le masque. Hein. On y a ajouté le masque par la suite. mais les écoles, ou les élèves au primaire ne portent pas le masque en classe. Et maintenant, et même maintenant, avec l'ouverture au mois de janvier, il y a une semaine, ils ont dit les élèves de l'école primaire ne portent pas de masque en classe, mais en portent dans le corridor quand ils sont en train de se balader d'un endroit à l'autre. Mais c'est dans le corridor, combien de temps on passe? Et dans la classe, combien de temps on passe?
Oui, alors c'est incohérent, non?
Oui, c'est incohérent.
Mais dites-moi, est-ce qu'un masque peut vraiment faire quelque chose contre des particules aussi fines que l'aérosol, compte tenu du fait qu'on respire un peu d'air qui passe de tous les côtés? Moi, je pensais que le masque, c'est surtout pour les postillons ou les particules plus grosses lorsqu'on est en face de quelqu'un. Est-ce que je me trompe là-dessus?
Avez-vous fait le test de la bougie?
Ah non, si vous avez... êtes capable excellent. De m'en parler en une minute?
Oui. Alors, portez votre masque pour voir si votre masque est efficace ou pas. Portez votre masque, allumez une bougie, puis soufflez-la pour l'éteindre. Si vous l'éteignez, ça veut dire l'air passe. Si l'air passe, ça veut dire s'il y a de la laine d'ail dedans, ça va passer. S'il y a du virus, ça va passer. Donc, votre masque est inadéquat. Si vous portez un masque, vous soufflez la bougie, vous n'êtes pas capable de l'éteindre, ça veut dire que le masque est assez efficace. Les mailles sont assez serrées pour ne pas laisser passer l'air. Donc, si vous avez des virus à propager, vos virus vont rester dans votre masque et les autres vont être... ne seront pas en danger.
Il nous reste une minute, parce que je voulais la garder pour une dernière question. Comme on a très peu entendu les consignes en ce qui a trait aux aérosols, est-ce qu'il est, allons-y très pratico-pratique, vous êtes chez vous, il y a un service essentiel, le plombier vient réparer quelque chose, est-il préférable, voire nécessaire, d'ouvrir une fenêtre et de faire fonctionner le ventilateur de la salle de bain pour créer un courant, pour faire changer l'air dans votre pièce? Est-ce qu'on est devenu paranoïaque quand on va là ou est-ce qu'on devrait avoir de tels réflexes?
On devrait avoir de tels réflexes. C'est une très bonne mesure. Remarquez que quand il y a un étranger qui vient chez vous, le plombier, il arrive chez vous, c'est lui qui est en danger parce que lui, il vient respirer, il vient dans un espace que vous
plein de vos particules à vous, oui, c'est ça.
Plein de vos particules. Donc, si vous êtes infecté, sans le savoir, vos particules sont dans l'air. Alors, lui, quand il vient, c'est lui qui se met en danger. Mais il porte un masque. Donc, le fait de porter le masque le protège. Si lui, il est infecté et vous n'êtes pas, étant donné qu'encore une fois, il a son masque, il évite de vous envoyer ces particules dans votre espace. Donc, il y a une certaine protection. Cependant, il est toujours plus prudent quand un étranger vient chez vous, d'ouvrir les fenêtres juste pour aérer l'air.
Ou un étranger, ça peut être aussi votre belle-mère. Hein? C'est quelqu'un qui ne demeure pas dans votre bulle.
Qui ne demeure pas avec vous. Oui, quand je parle d'étranger, je veux dire qu'il n'est pas dans votre bulle.
Parce qu'on pourrait vous interpréter autrement. Non, le virus n'est pas dans ma famille, seulement chez les étrangers.
Non.
Nima Machouf, épidémiologue, entre autres titres, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous en apprendre encore un peu plus sur cette question dont on est un peu fatigué de parler, mais il le faut bien.
Alors, on est fatigué, mais là, je sais pas, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse notre part pour venir à bout de ce mot divin.
Voilà, vous non plus. Merci, au plaisir. Alors,
au plaisir.
Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute cette semaine et à samedi prochain, midi, pour une autre édition de Société.